France Culture.
Alors que le Madeleine, sur lequel s'était notamment embarquée l'activiste Greta Thunberg et la députée européenne Rima Hassan, alors que cette embarcation a été interpellée par Israël, alors que plus largement l'aide humanitaire, l'absence d'aide plus exactement, entraîne la mort de milliers de Palestiniens dans la bande de Gaza, une question ce soir, les démocraties occidentales se sont-elles détournées des ONG sur le terrain? Et deux invités pour tenter d'y répondre, Michel Duclos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur et représentant de la France auprès des Nations Unies, conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne et l'auteur notamment de cet ouvrage intitulé « Diplomatie française » qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Face à vous, Michael Neumann, bonsoir.
Bonsoir Quentin Lafay.
Vous êtes travailleur humanitaire et historien, directeur d'études au Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, le CRASH de la Fondation MSF, Médecins sans frontières. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du Soir.
Je m'appelle Baptiste André, j'ai 35 ans, je suis médecin hospitalier à Marseille. Ce qui se passe à Gaza me touche particulièrement. Mon père, lui aussi médecin humanitaire, était à Gaza l'an dernier, il y a passé un mois à l'hôpital européen de Khan Younes. Alors, mon rôle en tant que médecin à bord, il est de prendre soin d'abord de la santé de l'équipage, tant sur le plan de la santé physique que de la santé mentale. Puis on est quand même dans une période très stressante pour nous, avec des visites de drones toutes les nuits, des nouvelles de l'armée israélienne qui sont peu rassurantes. Certes, ça peut paraître symbolique, mais c'est primordial. En fait, on ramène du matériel médical de base. On ramène aussi du matériel orthopédique, avec des béquilles qui sont interdites par l'État d'Israël, mais aussi des prothèses, matériel de puériculture pour les enfants.
Baptiste André, le médecin hospitalier à Marseille, qui était présent sur le Madeleine, qui a été intercepté, je le disais, dérouté par la marine israélienne et qui avait notamment à son bord la militante suédoise Greta Thunberg, la députée européenne Rima Hassan. Le voilier avait à son bord également 12 militants français, allemands, brésiliens, turcs, suédois, espagnols et néerlandais. Ils étaient partis d'Italie le 1er juin dernier pour briser le blocus israélien de Gaza. Est-ce que selon vous, Michael Neumann, c'était une initiative positive? Comment est-ce que vous l'analysez et la jugez?
Je pense que toutes les initiatives visant à tenter de briser le siège et le blocus auquel est soumise la population gazaoui est bienvenue. Je pense que la réussite ou l'échec de ce projet flottille de Gaza ne peut pas être mesuré simplement à l'aune de sa capacité à amener un peu de secours, bien que celui-ci soit absolument nécessaire, mais je dirais... contribue à éveiller les consciences, à informer des gens qui ne sont pas toujours informés du verrou auquel est soumise cette population. Cette opération de la flottille de Gaza a une traduction médiatique dans les réseaux sociaux considérable, un impact sur les comptes Instagram, Telegram, de tout un tas de gens qui ne sont pas les clients habituels des médias. Et je pense que pour cette raison-là, cette opération effectivement a beaucoup de mérite. Quant à l'appeler opération humanitaire comme elle l'est par certains et certaines de ses propres participants, je pense que c'est pas le sujet, mais en tant que tel, montrer que le blocus est imperméable, y compris à une initiative de ce type, c'est quelque chose de tout à fait intéressant.
C'est pas le sujet, mais est-ce que c'est, selon vous tout de même, hein, selon l'humanitaire que vous êtes, une opération humanitaire quand même?
Je pense qu'il faut se rappeler que toute initiative destinée à briser un blocus n'est pas nécessairement humanitaire et c'est pas important en réalité. Rima Hassan et Greta Thunberg sont des personnages publics, elles sont pour l'une en tout cas une activiste politique et c'est en tout cas la démonstration que au-delà du qualificatif qu'on lui donne, elle a réussi son coup.
Michel Duclos, est-ce que vous allez dans le même sens? Est-ce que c'est une opération de communication positive, utile aussi pour la cause palestinienne?
Alors, je ne suis pas complètement sûr que ce soit positif, parce que je crains que ça ne touche quand même qu'un public, vous dites qu'il y a beaucoup de gens, c'est certes, ça c'est sûr, mais ça touche quand même uniquement à certains secteurs de l'opinion. En tous les cas, intuitivement, c'est ce que je dirais. Moi, ce qui me frappe le
quel
plus...
Quel secteur, pardonnez-moi, pour bien comprendre
si vous voulez, l'un des drames de la cause palestinienne, pour dire les choses en ces termes, c'est qu'aujourd'hui, au moins en France, elle n'est plus que la cause des gens de gauche, voire d'extrême gauche. Or, ça devrait mobiliser l'ensemble de la population. Et donc, il y a deux choses qui m'affligent tout particulièrement.
Qu'est-ce qui vous permet de dire cela? Il me semble quand même que j'allais dire le sort des Gazaouis intéresse bien au-delà de la gauche aujourd'hui.
Oui, ça intéresse, mais regardez dans la classe politique, les partis qui sont vraiment les plus mobilisés, ceux qui parlent constamment de ce drame, c'est quand même dans une certaine partie de l'échiquier politique. Vous voyez pas beaucoup de gens au centre ou à droite qui en font une cause nationale.
Le président de la République lui-même évoque l'idée de la reconnaissance d'un État palestinien, oui, pour prendre un exemple parmi d'autres.
Vous voyez, il parle de la reconnaissance de l'État palestinien, et ça c'est l'autre point qui m'attriste. Moi je suis partisan de la reconnaissance de l'État palestinien, qui n'est pas de malentendu entre nous. Mais ce qui m'attriste, c'est que les États n'aient pas été capables, les démocraties libérales, de casser le blocus de Gaza. Là, il y a un élément d'impuissance qui est quand même très très grave. Et donc, effectivement, des initiatives comme celle-ci se justifient par l'impuissance des États.
Alors justement, entrons dans le détail de ce sujet. Casser ce blocus à Gaza, permettre à l'aide humanitaire d'être acheminée jusque dans cette bande côtière, comment est-ce que les États occidentaux auraient pu faire pression utilement, Michael Neumann?
Alors, il faut quand même savoir et se rappeler que la réaction israélienne à la suite des massacres commis par le Hamas en octobre 2023, elle ne tient que parce que les États occidentaux livrent une quantité considérable d'armes à Israël, les Américains d'abord évidemment, les Allemands aussi, et que probablement que ces livraisons s'interrompant sous 15 jours, la guerre s'arrêtait.
15 jours.
Oui, 15 jours. Là, l'Israël n'a pas de stock. Les démocraties, ces démocraties occidentales dont on parle depuis le début de l'émission, ont les moyens d'arrêter ce massacre qui aujourd'hui a fait plus de 55 000 morts, condamné des centaines de milliers de personnes à la famine. Donc il y a évidemment des moyens de peser sur l'État israélien, et on peut que regretter la timidité, mais la complicité, l'accompagnement aussi de ces dites démocraties et de cette politique criminelle israélienne. Ils se sont jusqu'à maintenant montrés totalement incapables de lutter contre le dispositif de contrôle mis en place par Israël, sa tentative d'éradiquer le rôle de l'UNRWA dans la région, toute initiative également visant à contrôler les entrées et les sorties du territoire. Notre collègue médecin à bord du bateau tout à l'heure, Madeleine, expliquait que il y a tout un tas de dispositifs médicaux qui sont interdits d'entrer dans la bande de Gaza. C'est au nom de la logique du double usage qui fait que Israël considère que des béquilles, par exemple, pourraient être employées par le Hamas pour faire des armes. Eh bien, en tant que tel, du coup, on n'a pas le droit de faire rentrer tout un tas de choses dont on a besoin. Eh bien, force est de constater effectivement que nos pays occidentaux ont été totalement soumis à cette logique-là.
Michel Duclos, est-ce que le levier des ventes d'armes est le bon à actionner?
En tout cas, c'est un levier considérable.
Et pourquoi on ne l'actionne pas, d'ailleurs, en complément?
Non, mais le problème, c'est que c'est les États-Unis qui sont en cause. Et là, ce qui se passe dans l'affaire actuelle de Gaza, c'est quand même sans précédent, parce que à intervalles réguliers, au cours de ma carrière, j'ai vu Israël confronter un problème de sécurité, puis intervenir notamment chez ses voisins, par exemple au Liban, en 2006. Et ça durait un mois et demi. Et au bout d'un moment, les États-Unis disaient « maintenant ça suffit ». Parce que là, vous commencez à déraper, ça va aller de plus en plus mal et ça va mal se terminer pour vous. Donc, arrêtez. Et si vous n'arrêtez pas, effectivement, on coupe l'approvisionnement en armes. Et là, ce qui s'est passé sous l'administration Biden, c'est que Biden n'était pas content, haussait le ton, de temps en temps admonestait M. Netanyahu, mais fondamentalement, a fini par laisser faire. Et à chaque fois, d'ailleurs, le Netanyahou, qui a un grand art de manipuler le public américain, bien entendu, il connaît très très bien ce dossier, savait trouver le geste ou les mots. J'étais très frappé, par exemple, à un moment donné, il y avait une initiative franco-américaine pour arrêter Israël dans ses frappes au Liban. Le lendemain, Netanyahou dit non. Le surlendemain, il attaque le Hezbollah et tue Nasrallah. Et là, le président américain le félicite. Et donc, comment voulez-vous, dans ces conditions, que l'administration américaine ait la moindre crédibilité pour arrêter Israël ?
Michael Neumann, vous souhaitez réagir ?
Oui, je me dis qu'on paye le péché originel des Occidentaux, de la France en particulier, d'un soutien dit inconditionnel à Israël. Lorsque Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, exprime son soutien inconditionnel à Israël, on en paye toujours le prix, finalement, en donnant le ton à une conversation qui permet au gouvernement israélien, dans tous ses excès, de conduire...
Elle le dit quelques jours, quelques semaines après le 7 octobre, dans un contexte radicalement différent en tout cas de celui d'aujourd'hui.
Elle le dit dans un contexte certes un petit peu différent et en regrettant il y a quelques semaines les propos qu'elle a tenus, mais elle les regrette, elle explique qu'elle aurait sans doute pas dû le dire comme ça. Alors l'émotion est une chose, mais d'une part elle est présidente de l'Assemblée nationale, elle a donc des responsabilités particulières, et puis surtout aucune guerre ne peut être menée de manière inconditionnelle, ça n'existe pas.
Cela fait des mois qu'Israël tente de contrôler l'aide humanitaire à Gaza, sa distribution. Elle y parvient d'ailleurs partiellement, on va y en venir dans le détail, mais Michael Neumann, cette ambition-là d'Israël de contrôler justement la façon dont l'aide humanitaire est acheminée, répartie, comment est-ce que vous l'analysez ? Est-ce que cela respecte là aussi le droit de la guerre et les principes fondamentaux du droit humanitaire ?
Israël ne respecte rien dans cette guerre depuis longtemps, et dans l'acheminement de l'aide humanitaire pas davantage que dans la manière avec laquelle elle mène son offensive. La population est soumise à un siège quasi infranchissable depuis deux mois, plus encore depuis la reprise des hostilités à la fin du mois de mars. On connaît les quantités importantes de camions qui devraient être mobilisés pour alimenter la population gazaouie. On en est à une portion tout à fait congrue. Aujourd'hui, la politique israélienne, elle est de maintenir la population gazaoui dans un état de précarité extrême. Et si ce n'est pas de la laisser crever de faim, c'est bien de la laisser à la limite, juste en deçà de laquelle elle serait effectivement condamnée à mourir, en entretenant tout un tas de dispositifs aussi criminels que inefficaces, à l'instar de ce qu'on a vu être mis en place par la Gaza Humanitarian Foundation, qui est appelée la Gaza Humiliation Foundation par les Gazaouis, qui mettent des jours et des heures pour rejoindre les centres de distribution en risquant de manière systématique de se faire tirer dessus.
On va revenir sur cette fondation qui pose de nombreux problèmes. Avant cela, Michel Duclos, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans, j'allais dire, ces relations entre les États occidentaux en particulier et les ONG présentes à Gaza, un problème de confiance depuis le début, de soutien fondamental? On a le sentiment que si Israël parvient aujourd'hui peut-être à contourner les ONG sur place, c'était l'UNRWA à travers l'ONU hier, c'est aussi parce que les Occidentaux ne sont pas derrière ces ONG.
Alors l'UNRWA, c'est pas une ONG.
Non, j'ai bien expliqué que c'était l'ONU justement.
Et donc voilà le fond du problème.
C'est... Mais l'UNRWA n'a pas non plus, été largement soutenu par les États occidentaux il y a quelques mois.
Les Français, les Européens ont soutenu l'UNRWA. Comme vous le savez, notre ancienne ministre des Affaires étrangères a fait une mission, Madame Colonna, qui a formellement disculpé l'UNRWA des attaques contre cette organisation des Nations Unies. Moi-même, quand j'étais ambassadeur en Syrie, j'ai pu voir le travail de l'UNRWA dans les camps palestiniens. C'était absolument admirable. C'était quelque chose qui redonnait espoir dans l'humanité. Et que les Israéliens aient eu des reproches à faire à l'UNRWA, c'est possible, naturellement. Personne n'est parfait. Il y avait sans doute des employés qui avaient penché du côté du Hamas, que les Palestiniens aient élevé dans l'idée que les Israéliens se conduisaient très mal, c'est évidemment très très probable, et c'est relativement humain, mais casser l'UNRWA, c'était quand même vraiment quelque chose d'insoutenable. Et je pense que c'est ça qui est le plus triste, que Israël aura ça sur la conscience pendant des décennies, et ça reviendra comme un boomerang. Parce que maintenant, ce sera très très difficile d'obtenir la réconciliation de la population palestinienne à l'égard d'Israël.
Ça c'est pour l'UNRWA et donc l'ONU, hein, vous le disiez, mais s'agissant cette fois-ci des ONG à proprement parler, là aussi, comment expliquer que, j'allais dire, le travail autour de l'aide humanitaire soit contourné, réapproprié par Israël ?
Moi, je crois qu'on vit dans un monde, parce que vous avez cité l'attitude de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est pas celle du gouvernement actuel, c'est pas la position actuelle du gouvernement. Le président de la République a hésité dans son attitude à plusieurs reprises. Il a eu des va-et-vient sur l'affaire Israël-Palestine. Je crois pas, pour ma part, que la France ait cessé de soutenir les organisations humanitaires. Je pense que c'est un axe fondamental de notre politique. Peut-être avons-nous moins de moyens à y consacrer, mais je n'imagine pas qu'on ait pu, à un moment donné, lâcher les organisations humanitaires sur un dossier aussi capital que celui de Gaza.
Michael Neumann, votre point de vue ?
Si je prends l'exemple, par exemple, de la capacité des Gazaouis, des patients Gazaouis, des blessés en réalité, de sortir de Gaza pour se faire soigner. On a entamé un certain nombre de discussions avec des chancelleries, notamment en France, pour exfiltrer des blessés. On n'arrive pas. Enfin, on a extrêmement peu d'écoute dans ce domaine. La France, à l'instar d'autres pays, est extrêmement rétive à accueillir sur son sol des blessés d'origine gazaoui pour des raisons qui les regardent, mais qui sont, je dirais aussi, le symptôme d'une indifférence au mieux et encore une fois de ce qu'on peut appeler une complicité avec les crimes commis à Gaza par les Israéliens au pire.
Je voudrais vous faire entendre la voix de la vice-ministre des Affaires étrangères israélienne, Sharel Axtel. Elle parle justement de cette fondation, la Gaza Humanitarian Foundation, la GHF.
L'ONU fait tout son possible pour lutter contre le GHF et les efforts visant à acheminer l'aide à la population de Gaza. L'ONU et le Hamas persistent tous deux dans le vieux modèle de distribution de l'aide. On peut se demander si l'ONU se soucie réellement de fournir de l'aide à la population de Gaza ou si elle se concentre davantage sur l'approvisionnement du Hamas et de sa machine de guerre.
La GHF est une organisation opaque, hein, soutenue par les États-Unis. Son lieu de résidence est en Suisse. On a du mal à comprendre qui travaille en son sein, comment elle est financée, ce qu'elle fait effectivement sur le terrain. Michael Neumann, est-ce que vous avez vous-même plus d'informations sur ce sujet ?
C'est surtout la grande débandade, parce que tous les patrons de la Gaza Humanitarian Foundation partent, finalement désertent, expliquent qu'ils ont fait le mauvais choix, qu'ils n'auraient pas dû s'allier à cette initiative, quelles qu'en soient les raisons. La firme de consulting Boston Consulting, qui était à l'origine de
BCG.
Cette initiative, finalement a expliqué qu'ils n'auraient pas dû le faire. Donc l'objet lui-même est en pleine tempête. Quant à ses actions sur le terrain, on en voit la réalité. Ce sont des dizaines de morts à chaque distribution. Il faut rappeler, pour répondre à cette dame vice-ministre israélienne, que le Programme alimentaire mondial, le PAM, bénéficiait de 400 points de distribution à Gaza. Aujourd'hui, la GHF, c'est 4 points de distribution. Ce qui veut dire que les 2 millions de Gazaouis sont censés se rassembler, faire des dizaines de kilomètres à l'intérieur de la bande de Gaza pour rallier des centres de distribution extrêmement mal gérés par des gens dont ça n'est pas le métier, encadrés par des hommes en armes qui, à la moindre tension, tirent dans le tas. La mécanique interne de la Gaza Humanitarian Foundation, c'est une chose, mais sa traduction concrète sur le terrain est un désastre.
Michel Duclos, est-ce que même théoriquement, cette fondation, c'est quelque chose qui, à un moment donné, pouvait avoir du sens ?
Ça aurait eu un sens si elle avait respecté les principes précisément de l'action humanitaire. Et si ces patrons successifs ont démissionné, c'est parce qu'ils ont constaté que c'était pas le cas.
Et on rappelle d'ailleurs quels sont ces principes, les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité, d'indépendance.
Voilà, exactement. Et là, ils se sont rendus compte progressivement que Israël était à la recherche d'un faux-né qui puisse donner l'impression qu'il y ait une assistance humanitaire aux Gazaouis sans gêner l'action du gouvernement israélien, des forces armées israéliennes.
En l'occurrence, il me semble que la Gaza Humanitarian Foundation est une mauvaise réponse à un problème qui ne se posait pas. Israël explique que...
L'argument principal, pardonnez-moi, c'était de dire le Hamas détourne une partie de l'aide humanitaire. C'est ce que prétendait notamment le gouvernement israélien.
Absolument. Et précisément, Israël a été dans l'incapacité de produire la moindre preuve du détournement d'aide par le Hamas. Alors, il n'est pas exclu que sur les quelques camions qui aient pénétré la bande de Gaza, le Hamas ait mis la main sur certains, mais aucune preuve n'a été présenté, que dans tous les cas, ce détournement n'est pas significatif. Et si pillage et détournement, il y a eu, il est le fait de groupes plutôt politico-militaires mafieux, dont on sait aujourd'hui très clairement qu'ils ont été alimentés eux-mêmes par le gouvernement israélien, et que donc cette rhétorique du détournement par le Hamas, elle est là pour le coup une excuse absolument pernicieuse.
Michel Duclos, je vous laisse reprendre le fil.
Je partage tout à fait cette analyse.
Justement, alors sur ces principes humanitaires, d'humanité, de neutralité, d'impartialité, d'indépendance, en quoi aujourd'hui, concrètement, très concrètement, Michael Neumann, ne sont-ils pas respectés du point de vue de cette fondation, notamment ce principe central d'impartialité qui doit reposer sur les besoins humanitaires réels. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui est opéré à Gaza.
Je crois qu'en réalité, moi, la question des principes est pas celle qui me pose le plus de problèmes au regard de la production de secours par la Gaza Humanitarian Foundation. Le problème, il est sécuritaire, il est technique, il est celui de l'incompétence de ceux qui sont à sa tête ou chargés de sa mise en œuvre. Il est surtout dans l'intention qui est celle de ses promoteurs, à savoir le gouvernement israélien, dont je doute que l'intention soit de fournir de l'aide aux Gazaouis. Encore une fois, en divisant de 400 à 4 le nombre de points de distribution alimentaire, l'objectif d'Israël, très clairement démontré, n'est pas de subvenir aux besoins de la population.
Je reviens, Michel Duclos, sur le lien entre États occidentaux et organisations non gouvernementales à Gaza. Est-ce que certaines chancelleries peuvent aujourd'hui reprocher à ces ONG de traiter avec le Hamas ? Est-ce que c'est un argument qui peut justifier une forme de distanciation ?
Écoutez, je vais vous raconter un souvenir personnel. Après avoir pris, vous savez, j'étais ambassadeur en Syrie. Après avoir pris ma retraite, j'ai évidemment accompagné l'opposition au régime d'Assad. Après les frappes chimiques sur la Ghouta, donc dans la banlieue de Damas, il a fallu secourir des populations dans un état de dénuement extrême. Et là, certains amis en Suisse, des organisations non gouvernementales, ont pu mobiliser des secours et de la nourriture dans des délais très rapides. Pour acheminer ces secours et cette nourriture, il fallait passer par le Hezbollah. le Hezbollah a certainement ponctionné au passage 20-30% des secours qui étaient acheminés. Mais c'était ça où laisser les gens mourir de faim et ne pas pouvoir se soigner. Donc oui, le choix a été fait de transiger sur ce point. Qu'il y ait effectivement de la perdition et que le Hamas s'empare de certains transferts d'aide humanitaire, c'est vraisemblable, c'est possible. Mais est-ce que pour autant, on doit condamner à la mort des dizaines de milliers de gens à Gaza ? Ça paraît quand même monstrueux. Et l'un des rares aspects positifs de ce drame épouvantable, c'est d'avoir démontré l'efficacité et la légitimité des organisations des Nations Unies ou des organisations humanitaires, les vraies organisations humanitaires, dont on s'aperçoit à contrario que quand elles sont autorisées à travailler, elles travaillent quand même dans l'ensemble. Très bien.
Michael Neumann, vous êtes contraint, vous, ces Médecins Sans Frontières, de traiter avec le Hamas. C'est une nécessité, j'allais dire, pour que l'aide humanitaire parvienne au mieux aux Gazaouis. Est-ce que cela, c'est quelque chose qui peut vous être parfois aussi reproché par les chancelleries ?
Alors, ça peut nous être reproché par les chancelleries, et en tout cas par des gens qui ne comprennent pas l'essence de l'action humanitaire, qui est de parler et de négocier avec l'ensemble des pouvoirs qui détiennent la capacité de vous laisser travailler ou de ne pas vous laisser travailler. J'étais à Gaza en 2007, moi, au moment de la passation de pouvoir un peu violente entre le Fatah et le Hamas à Gaza. Il est évident qu'assez rapidement, il a fallu se mettre en situation du côté de Médecins Sans Frontières pour travailler avec les nouvelles autorités, discuter avec le ministère de la Santé, dont les fonctionnaires étaient ceux d'avant, mais dont les représentants politiques étaient issus du Hamas, sans quoi les opérations s'interrompent. Et cette réalité observée à Gaza, elle est la même sur l'ensemble des théâtres de conflits du monde, où pour parvenir à fournir de l'aide aux personnes qui en ont besoin, eh ben il faut entamer des discussions, des négociations avec les pouvoirs. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu monter une petite musique très intimidante, qui est celle de la politique antiterroriste, qui fait que au nom de cette lutte, au nom de cette guerre antiterroriste, il a été parfois interdit aux organisations non gouvernementales de mener des discussions avec des groupes catégorisés comme terroristes. On l'a vu dans le Sahel, on l'a vu en République démocratique du Congo, on l'a vu évidemment donc ces dernières années dans les territoires palestiniens, avec des effets concrets. On a des collègues de Médecins Sans Frontières qui se sont retrouvés en prison, arrêtés, simplement parce qu'ils faisaient leur travail destiné à négocier un espace de travail pour MSF visant à construire une clinique, réhabiliter un hôpital, distribuer des médicaments ou de l'aide alimentaire. C'est vrai aujourd'hui au Soudan, dans le cadre du conflit qui oppose les RSF au gouvernement soudanais. Ça l'est malheureusement de plus en plus. Cette rhétorique de la guerre contre le terrorisme a emporté une partie des règles de fonctionnement des humanitaires en zone de conflit.
Est-ce qu'elle n'est pas ambivalente, voire ambiguë même, Michel Duclos, cette position des chancelleries, notamment parce qu'on sait bien que lorsqu'une chancellerie, lorsque des diplomates rompent concrètement avec un gouvernement, rompent des relations diplomatiques, elle s'appuie souvent sur les ONG pour obtenir des informations du terrain?
Voilà, il faut bien voir ce qu'est le travail diplomatique. Jadis, quand vous étiez dans un immense pays africain ou en Asie, je sais pas moi, le Congo ou un pays comme ça, vous pouviez pas sillonner le pays, vous savez pas ce qui se passait dans les lointaines provinces. Il y avait des missionnaires, et les missionnaires avaient la sympathique habitude de venir tous les 3 mois ou tous les 6 mois à la capitale, à l'ambassade. On leur servait un peu de champagne, on leur parlait le français de chez nous. Et en échange, ils racontaient comment ça se passait dans l'endroit où ils se trouvaient. Et maintenant, il y a des zones entières dans lesquelles les diplomates ne peuvent plus pénétrer, ils n'ont plus d'accès. Et effectivement, les ONG, alors là on a parlé des ONG humanitaires, mais il y en a beaucoup d'autres. Maintenant, il y a des ONG de diplomatie parallèle, comme Humanitarian Dialogue, ou des ONG de militantisme pour les droits de l'homme, ou autres, ou d'observation, qui, elles, peuvent continuer à circuler dans des pays difficiles. Et donc, si les diplomates se privent de cette source d'information, ils ne font pas leur métier.
Mais vous n'observez pas, vous-même, comme le décrit Michael Neumann, cette défiance croissante, justement, entre État et ONG, sous couvert de lutte contre la guerre, contre le terrorisme ?
Je suis certain que la question du terrorisme joue un rôle, bien sûr. Mais quand même, pardon de reciter l'exemple syrien, mais lorsque HTC, qui est maintenant au pouvoir à Damas, était confiné dans la zone d'Idlib, il y avait des organisations britanniques, il y avait donc Humanitarian Dialogue à Genève, qui parlait à ces gens-là. Bon, il m'est arrivé d'être invité à des réunions pour expliquer à HTC le monde moderne tel qu'il était. Et c'est comme ça que, progressivement, ils se sont détachés du djihadisme. Donc, les ONG jouent un rôle qui n'était pas exactement celui des États. Les États ne parlaient pas à HTC. Est-ce que c'était forcément contradictoire ? Est-ce que il doit y avoir un antagonisme ? Il faut naturellement être prudent. Les chancelleries, comme vous dites, ont leur logique. Et ils ne peuvent pas faire la même chose que les ONG. Mais mon expérience personnelle, c'est que quand même, en France, on arrive à travailler ensemble. Si vous me permettez un autre souvenir personnel, à un moment donné, j'étais sous-directeur du désarmement au moment de la reprise des essais nucléaires. Nous avions contre nous Greenpeace et un certain nombre d'autres ONG. On n'était pas dans le même camp, on se combattait, mais finalement, au bout d'un moment, on s'estimait.
Et malgré le passif de Rainbow Warrior.
Et à la fin de mon séjour dans ce poste, Handicap International ou Greenpeace m'appelaient pour me consulter sur certaines actions, qui n'étaient pas évidemment pas les actions anti-françaises, entre guillemets, mais malgré tout, on était entre gens qui ne partageaient pas n'avaient pas forcément la même analyse ou n'avaient pas les mêmes combats, mais malgré tout, qui étaient préoccupés par les mêmes sujets.
Michael Neumann, il y a une exception française alors peut-être dans le fait de continuer de poursuivre ces relations entre les ONG et les services diplomatiques ?
Alors je crois qu'on n'est pas du tout en train de parler de la même chose. Je pense que on a à l'instar des discussions qu'on peut avoir avec l'ensemble des pouvoirs politiques dans les pays dans lesquels on travaille. On a des conversations avec les diplomates du Quai d'Orsay, comme on peut en avoir avec les diplomates américains.
Vous continuez de parler à tout le monde.
À Washington, on continue de parler à tout le monde. En tout cas, à ceux qui veulent bien nous parler. C'est pas le cas de tous. Il s'agit pas pour autant d'expliquer qu'on travaille ensemble. Moins encore de prétendre qu'on fournit des informations à ces dites diplomaties. On est marqué ces dernières années, on semble-t-il marqué une évolution, je dirais, assez négative dans ces relations entre les démocraties libérales et les ONG. Moi, j'ai commencé à travailler à MSF à la fin des années 90, au milieu d'une période où disons la gestion des crises internationales intégrait une réponse des Nations Unies forte, une réponse des ONG puissante, largement soutenue au moins financièrement par les États occidentaux, l'Union européenne, ECHO. La création de l'agence européenne chargée de l'action humanitaire date de cette époque-là. Les financements coulaient à flot et le secteur a vu sa capacité à intervenir au cœur des conflits absolument explosé. Donc,
les États occidentaux aujourd'hui continuent de financer largement quand même
les
ces
États
ONG,
occidentaux
à près de 60%.
Continuent de financer ces ONG de manière importante, mais de moins en moins. On a vu les décisions récentes de Donald Trump, évidemment, elles sont dans tous les esprits, mais elles ont été précédées de décisions similaires, même si les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes de la part de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France aussi, qui est un tout petit financeur de l'aide humanitaire, hein, il faut le rappeler, tout petit financeur de l'aide humanitaire, dans un contexte où, finalement, cette notion de solidarité internationale est nettement moins à la mode qu'elle a pu l'être en tout cas dans les années 90 et les années 2000. Encore une fois, sans doute, à la fois du fait de cette guerre contre le terrorisme, de l'assertion, du renforcement des souverainismes nationaux, de contraintes budgétaires également. Mais enfin bon, la logique du chacun chez soi et la métropole plutôt que le monde semble prévaloir largement.
Michel Duclos, vous souhaitez réagir ?
Non, je crois que si ce constat a une large part de vérité, c'est que ça résulte d'un phénomène beaucoup plus général, qui est le reflux des démocraties libérales, ou le reflux du libéralisme dans nos démocraties. Ou pour dire
la pente illibérale, disent certains.
Ou, disons, la pente illibérale. S'ajoutant à cela, effectivement, on a moins d'argent. Effectivement, aujourd'hui, les budgets de l'État, les budgets qu'un État comme le nôtre peut consacrer à l'action humanitaire est en baisse. Et puis aussi, la multiplication des crises. C'est quand même assez rare qu'on ait eu... Jadis, on avait beaucoup de crises. Hein, au début de l'action humanitaire, c'était les boat people. Et c'était une crise. Il y en avait deux ou trois autres dans le monde. Mais aujourd'hui, quand vous avez Gaza et l'Ukraine en même temps, c'est quand même énorme. Et puis vous avez la Birmanie, vous avez énormément d'autres... vous avez le Soudan, vous avez la Libye, vous avez le Congo. Et des budgets qui sont en berne. Mais... Le phénomène le plus profond, c'est quand même le retrait américain, et c'est dans nos propres sociétés en Europe la montée de l'illibéralisme.
Michael Neumann.
Oui, moi, j'ai travaillé pas mal sur la décennie 90 et elle est frappante par le nombre hallucinant de conflits qui faisaient du monde un truc complètement apocalyptique. C'est la guerre en Somalie, la guerre dans les Grands Lacs, la guerre dans le Caucase et en Tchétchénie, la guerre au Liberia, la guerre au Sierra Leone, la guerre en ex-Yougoslavie, des conflits partout.
Et donc, malgré cette dispersion, il y avait du soutien ?
Bah, il y avait en tout cas, je dirais, une forme de... le mot est sans doute trop fort pour traduire la réalité qui se jouait à l'époque. Mais disons, un aménagement comme une co-gestion des crises internationales, et on en est plus du tout là. Aujourd'hui, face aux bateaux de migrants qui partent de Libye vers l'Europe ou l'Italie, vous avez Emmanuel Macron, puis les ministres de l'Intérieur successifs depuis 2017 en France, qui parlent des ONG comme étant complices des passeurs, alimentant l'insécurité dans le pays, l'invasion étrangère, tout un tas de choses qui sont exactement aujourd'hui également le langage de Giorgia Meloni en Italie, qui est une post-fasciste franchi.
Un mot de conclusion.
Non, ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est que les crises sont rapprochées de notre continent et qu'effectivement, ça a modifié l'attitude d'un certain nombre de politiques. Mais j'ai du mal à penser quand même qu'on puisse dire que le lien entre nos démocraties libérales et les ONG soit vraiment en voie de...
D'effritement.
D'effritement.
Merci à tous les deux, Michel Duclos, Michael Neumann.